Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir sur la 93.5, bien sûr, et aussi sur les autres médias, puis surtout l'étendue du territoire national. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour l'émission Club de la Presse. Nous sommes au mardi 6 août 2024. Il est 11h et vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir YouTube et Facebook, et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, nous sommes au mardi. Justin Anani est là. Justin, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, Dieu merci.
Tu as bien démarré la semaine ?
Oui, tant qu'il y a la respiration, donc on ne peut que s'en réjouir.
C'est l'essentiel.
Tout à fait. L'essentiel avant l'agréable, bien sûr. Et bonjour à tous les invités qui sont avec nous. Bonjour également à tous les Togolais qui nous suivent en ce moment, notamment nos frères qui sont au niveau de la diaspora et ceux également qui sont en vacances chez nous. Donc, bien des choses à tout le monde.
Bien des choses à tout le monde. Je suis toujours ravi de t'avoir dans cette émission. Et ça fait toujours plaisir pour nous de t'avoir. Et quand tu réponds également à notre invitation, ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous attendons aussi d'autres confrères. Il y a Eric Johnson, Ali Le Grand et aussi Sav Djobo qui seront avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, nous avons des invités aussi dans ce studio avec nous. D'abord, il y a M. Iboku Situ. M. Iboku, bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
Vous êtes directeur exécutif de Togo Pride, coordonnateur de la semaine du e-commerce, c'est bien ça?
C'est ça.
D'accord, nous allons parler alors du e-commerce tout de suite, mais vous ne serez pas seul, vous serez accompagné alors de Mme Faniela Emefatei. Madame, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes la gérante de l'agence de communication et marketing Artifice, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors, Monsieur Iboku, c'est vrai, du 20 au 26 août 2024, Lomé accueillera la troisième édition de la semaine du e-commerce, un événement annuel visant à promouvoir le commerce électronique au Togo et en Afrique. Et c'est une véritable opportunité pour discuter des défis et des opportunités du e-commerce. Cette édition 2024 est un format hybride avec 3 jours en présentiel et 4 jours en ligne. C'est bien cela. Mais d'abord, ce que nous voulons savoir, M. Iboku, en quoi consiste la semaine du e-commerce?
Bien, merci pour l'opportunité. Mais je voudrais, si vous le permettez, avant d'entamer cette émission, présenter mes condoléances les plus attristées à l'Église catholique et à toute la communauté chrétienne et à tout le peuple togolais pour la perte de notre illustre et exemplaire guide archevêque Monseigneur Bariga, que son âme repose en paix. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que la semaine du e-commerce est un événement annuel qui permet de promouvoir le commerce électronique au Togo et en Afrique. Il faut dire que nous avons commencé la première édition en 2022 dans un contexte assez particulier. Qu'ils nous souviennent que nous avons traversé la période difficile de la Covid et il s'est passé quelque chose dans ces périodes-là. Tous les États étaient confinés et la mobilité était extrêmement réduite Alors, dans ce contexte, nous avons remarqué que dans la plupart des pays développés et dans certains pays de l'Afrique, les gens se sont adonnés au commerce électronique, ce qui a créé une très grande croissance dans ce secteur-là. Mais nous avons observé chez nous au Togo, c'était comme si rien ne se passait. Et donc, nous avons dit que nous devons faire quelque chose afin de pouvoir permettre au peuple togolais de bénéficier, de tirer les avantages de cette pratique qui consiste à faire des transactions en ligne, à acheter des produits, à payer en ligne et se faire livrer. Donc, c'est ce qui nous a amené à initier la semaine du e-commerce dans le but de dynamiser, on va dire, la pratique du e-commerce au Togo et en Afrique.
D'accord. Alors, Madame Maté, concrètement, qu'est-ce que votre agence fera dans l'organisation lors de cette conférence ou de cette rencontre?
Alors, notre agence, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une agence de communication et marketing. Donc, nous sommes partenaires avec Togo Pride, qui est une association d'impact social. Donc, nous venons plus en appui du côté communication et marketing. Notamment, vous suivez déjà sur les réseaux sociaux, nous parlons du e-commerce, les visuels, même les vidéos, la communication tout autour de cet événement et également le côté marketing.
D'accord. Monsieur Ibaku, c'est quoi le thème à l'affiche lors de cette rencontre?
Je voudrais bien laisser Madame Fanila nous parler de ce thème.
D'accord.
Merci. Alors, pour cette troisième édition, le thème est « Commerce électronique au Togo et en Afrique. Surmonter les défis et saisir les opportunités pour une croissance inclusive.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui motive le choix alors de ce thème?
Alors, si vous permettez, je vous reprends la parole. Beaucoup, oui. Alors, nous avons voulu, à travers ce thème, explorer les opportunités qui sont inhérentes à l'opérationnalisation d'une technologie implémentée par la BCAO récemment. Donc, il s'agit de l'interopérabilité du paiement en ligne. Concrètement, cela veut dire que la BCAO est en train de lancer une phase pilote pour permettre à ce que les détenteurs des portefeuilles électroniques et les détenteurs de comptes bancaires puissent opérer des paiements à travers un dispositif unique. Concrètement, si quelqu'un achète en ligne, alors le consommateur pourra utiliser soit son compte de mobile money ou soit son compte bancaire pour payer et vice versa. Parce que des fois, vous avez de l'argent sur votre compte bancaire, vous n'avez pas de l'argent sur T-Money, par exemple, ou bien sur Froze, ou sur votre wallet mobile money, tout simplement. Mais vous avez envie de payer quelqu'un qui veut être payé par mobile money. Comment on fait? Alors que votre argent est bloqué en banque. Vous ne pouvez pas aller en banque, reprendre de l'argent, recharger votre compte de mobile money et revenir payer la personne. Donc, avec ce dispositif nouveau de la BCAO, tout opérateur qui disposera de ce portefeuille pourra directement payer, quel que soit son compte ou son portefeuille, pourra payer n'importe qui. Et ce qui est formidable, c'est que c'est valable dans tous les 8 pays de l'UEMOA.
D'accord.
Donc, au Togo, on peut acheter et payer, et que ce soit en Côte d'Ivoire ou à Dakar, le paiement peut se faire très facilement.
D'accord. Madame T, intéressons-nous maintenant aux activités qui seront à l'ordre du jour dans cette semaine à l'ordre du e-commerce. Concrètement, qu'est-ce qui sera fait?
Alors, pour cette session, nous avons initié une table ronde, des panels et formations pour mieux outiller les acteurs de l'écosystème. Également, nous aurons une journée porte ouverte et des visites en entreprise. Il y aura du réseautage et des partenariats stratégiques. Formation des acteurs de l'écosystème, comme je le disais, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'e-commerce, mais qui ne savent pas véritablement ce qu'il faut faire, s'ils y sont ou pas. Donc, voilà, nous allons véritablement les outiller.
D'accord. Monsieur Ibakou, déjà, qui peut participer à cette semaine ou à cette rencontre du e-commerce? Est-ce que vous avez des profils aussi bien précis pour participer à cette rencontre?
Alors, bien. Alors, la semaine du e-commerce est dédiée aux différents acteurs de l'écosystème qui sont identifiés, tels que les plateformes e-commerce, les plateformes de livraison, les intégrateurs de services de paiement, dont je viens de parler tout à l'heure, les startups qui développent des solutions ou les agences de marketing qui font de la communication autour des produits et des services qui se trouvent sur les plateformes e-commerce, mais aussi les banques et les acteurs télécoms qui interviennent à un niveau donné, au niveau du paiement et de la connectivité avec les portefeuilles de paiement. Ensuite, il y a les institutions de régulation, parce que effectivement, il faudrait que, comme toute activité, cette activité du e-commerce se passe dans un cadre réglementé. Et ça, c'est le régulateur qui est l'État et ses institutions qui permet d'encadrer à travers des lois et un cadre réglementaire établi l'activité du e-commerce dans le pays. Et finalement, le grand public, puisque tout le monde achète quelque chose en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est presque un réflexe pour les citoyens de passer par les moyens électroniques pour procéder aux achats. Donc, le grand public aussi est invité.
D'accord.
Sur l'événement.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne quand on participe à cette semaine?
D'accord. Comme Fanny là vient de le dire tout à l'heure, venir à la semaine du e-commerce, c'est d'abord se faire former. Parce que au niveau des acteurs, il y a des pratiques qui évoluent de jour en jour. Il y a des nouvelles tendances qui sortent et il faudrait outiller les acteurs à pouvoir cerner ces nouvelles technologies pour mieux pratiquer leurs activités et augmenter leur chiffre d'affaires. Mmh. Ensuite, il y a à travers une formation qui est dédiée, par exemple, aux ELECAF. Vous comprenez que si je dois acheter un produit qui est à Dakar, tout en étant au Togo, nous faisons partie de cette zone économique qui est en train d'être promue depuis quelques années. Et il faudrait que les acteurs, les plateformes, les vendeurs puissent savoir comment se positionner dans cet espace global africain de commerce. Et je pense que le commerce électronique va jouer un très grand rôle dans cette intégration-là. Mmh. Ensuite, nous allons faire une visite d'entreprise sous forme de porte ouverte pour visiter un partenaire stratégique de l'événement afin que le grand public puisse découvrir comment fonctionne ce partenaire dans l'écosystème.
D'accord. Et Madame Fanila ou Madame T, et finalement, qu'est-ce qu'on on a déboursé d'abord avant de participer à la semaine alors du e-commerce? Est-ce que c'est gratuit ou bien on a quelque chose à débourser?
Alors, la participation, elle est gratuite pour toute personne intéressée par le e-commerce. Mais non, pour les entreprises qui souhaitent faire de la publicité sur leurs services et produits, voilà, c'est payant. Mmh. Mais nous leur laissons le choix de nous approcher sur le numéro 91 96 77 77. Ce numéro est également sur WhatsApp.
91 96
77 77.
D'accord, c'est bien gardé. Alors, monsieur Ibakou, nous sommes pratiquement à la fin alors de notre entretien. Et si vous avez un mot à l'endroit du public pour participer à cette rencontre qui se tient bien sûr, je pense, c'est du 20 au 26 août prochain. Et quel est ce mot?
Très bien, merci. Alors, je voudrais rappeler effectivement que c'est toute une semaine qui est dédiée à l'événement. Alors, du 20 au 26, la semaine du e-commerce va se dérouler, mais en deux phases. Donc, il y a la phase primaire qui est le 20, nous allons faire un tour média. Et le 21, le 22, nous sommes à Agora Senghor pour faire les panels et les formations. Et le 23, nous irons en visite d'entreprise porte ouverte. Donc, nous invitons le public intéressé à pouvoir y participer. C'est vrai que c'est gratuit, mais c'est sur inscription pour pouvoir gérer effectivement le trafic. Donc, si vous voulez y participer, il y a des formulaires qui sont en ligne sur notre site web et nos pages des réseaux sociaux pour pouvoir s'enregistrer gratuitement. Donc, j'en appelle aux partenaires qui voudraient bien nous soutenir dans cette activité à nous contacter sur le numéro 96 et 91 96 77 77, parce que nous estimons que c'est une manière pour nous de créer de l'emploi. Mmh. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de nos jeunes frères qui sont au chômage, et donc c'est des activités comme ça qui leur permettent de joindre debout. Donc, soutenir la semaine du e-commerce, c'est soutenir les jeunes start-up, c'est soutenir les jeunes les étudiants, c'est soutenir la population jeune togolaise à pouvoir démarrer une activité et générer de revenus.
Ah, donc, d'accord.
Merci pour cette opportunité.
Madame T, un mot de la fin.
Je rejoindrai Situ, Monsieur Situ Iboku.
Oui.
Et lance un appel encore aux partenaires et sponsors à nous approcher sur le 91, 96, 77 pour que la fête soit belle.
D'accord. Oui, monsieur, un dernier mot, Monsieur Iboku.
Oui, vous comprenez que je ne pourrais pas partir d'ici. Sans vous remercier, avec pour le travail que vous faites avec vos confrères. Et je pense que les journalistes et les médias font un travail extraordinaire dans le pays et nous permettez-nous ici de les saluer.
D'accord.
Je voudrais aussi remercier particulièrement le directeur général de Canal FM, qui d'ailleurs est un partenaire fidèle depuis la première édition, qui nous offre l'opportunité de toujours nous accompagner sur la semaine du commerce. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Iboku Situ. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Togo Pride, coordonnateur aussi de la semaine du e-commerce. Merci d'être passé dans cette émission. Madame Fanila Emefatei, merci d'être passé dans cette émission aussi. Je rappelle que vous êtes la gérante de l'agence de communication et marketing Artifice. Merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes de retour dans cette émission. Nous sommes au mardi. Nous parlons culture et nous parlons aussi littérature. Nous sommes rejoints par Tis, Claude Assiobo. Tis, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va.
D'accord.
Sauf que nous sommes tous en deuil.
Tout à fait. Nous sommes tous en deuil. Je sais de quoi vous parlez et je comprends également votre tristesse et votre émotion. Alors, c'est vrai, je rappelle que vous êtes écrivain. Vous êtes aussi critique littéraire et aussi chroniqueur littéraire, et nous abordons toujours des pans de la littérature dans cette émission à travers cette chronique que nous animons chaque mardi. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture et de la jeunesse scolaire surtout. Alors, tu me dis souvent que l'écrivain est un médecin qui n'administre que des médicaments délicieux, alors que les médicaments sont souvent aussi amer, hein, et Claude.
Eh oui, ça c'est vrai, mais la littérature, cette spécialité, hein, que c'est un médecin de l'âme. Ces médicaments sont des médicaments d'agéfiés, par le jeu de la fiction, Vous savez, dans la fiction, la réalité est habillée par l'imagination, qui la rend plus belle, plus facile à avaler, et par le jeu aussi de la diction. La diction, les images, les figures de style, tout ce que vous voulez. Et ça, même les choses les plus difficiles, qui sont difficiles à vivre, on les avale très facilement par le biais de la littérature. C'est ça, c'est pourquoi on dit que la littérature, eh bien, c'est un médecin qui ne donne que des médicaments délicieux, parce qu'il transforme tous ces produits amers en sirop et en bonbons. Voilà.
Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours des médicaments amers avec la littérature.
Non, je crois que tout ce qui est amer est transformé en... c'est ça. Même la littérature peut parler d'une façon merveilleuse de la mort. Mmh. Des thèmes les plus désagréables, les plus difficiles à supporter. La littérature est capable d'y mêler, n'est-ce pas, de la douceur et de l'agrément.
On sait même d'ailleurs qu'il y a des figures de style qu'on utilise d'habitude et quand c'est pour amoindrir un tout petit peu les choses et aussi embellir.
Embellir surtout. Voilà, surtout. Et on peut aussi les amoindrir.
Voilà. Alors, est-ce que la lecture, celle que consomme alors la jeunesse, ne constitue pas pour elle un danger, contrairement à ce qui est couramment dit, Claude?
Oui, ça, ouais, ça dépend. Les jeunes, ça dépend du choix des jeunes. Et les jeunes qui aiment surtout les œuvres mineures, hein, les œuvres mineures comme Arlequin, tout ce que vous voulez, et oui, ça peut constituer un danger, et parce qu'on devient un rêveur. Un rêveur, les jeunes filles qui lisent ces romans photos, ces Arlequins-là, rêvent d'un garçon beau, intelligent, riche, musclé, tout ça, ça n'existe pas dans la réalité. Ça n'existe pas dans la réalité. Hein, mais lorsque vous passez de cette fiction, vous êtes imbibé de cette fiction-là, vous allez en vain chercher à vous chercher dans la réalité. Et c'est un danger. Hein. Et puis la littérature a ce côté que souvent, elle ne développe que des thèmes réalistes. Ça veut dire des choses désagréables, hein, très désagréables, qui vous disent finalement que si la vie est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça rend pessimiste. Et puis, après tout, les gens se disent, bon, à quoi ça même sert même de former la jeunesse à la littérature, sinon former des beaux parleurs? Ce qui fera le plus, c'est de devenir un beau parleur.
Et comme le dira aussi l'autre, hein, et comme le dira l'autre, que signifie la littérature dans un monde qui a faim?
Oui, voilà. Et puis, il y a un côté positif, hein, il y a un côté très positif. La littérature, c'est le lieu de partage des émotions. Hein, donc, c'est une aventure qui touche le cœur. Une stratégie pour toucher le cœur. Hein, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et là, on peut amener les gens à sentir des sentiments aussi très positifs. Et n'oubliez pas, le livre, surtout, c'est le lieu de partage des idées les plus élaborées. Si vous voulez avoir les idées les plus élaborées, les plus structurées, les plus élaborées, alors il faut aller les chercher dans le livre.
Voilà. D'accord. Je crois que c'est ça. D'accord. Alors, pour ces avantages que vous venez alors de citer, hein, pour la littérature au niveau alors des jeunes, est-ce que les jeunes seuls peuvent alors avoir ces avantages ou bien il y a quelqu'un peut-être qui doit être à leur côté pour les aider à y arriver?
Oui, c'est là où il y a le rôle du professeur de littérature. C'est lui qui doit aller dans le choix des livres, hein, et c'est lui qui peut les éclairer, peut les approfondir. Bon, les œuvres les plus belles sont des livres parfois les plus difficiles, et parce que c'est des livres qui ont une certaine profondeur. Hein. Si vous prenez par exemple la littérature togolaise, on vient de... Je peux vous citer l'œuvre de Monseigneur Barriga, le Trône Royal. Et à la surface, c'est simple, mais il y a des choses très profondes. Ça pose un problème philosophique, hein, très profond, mais que l'élève seul ne peut pas découvrir. Il faut quelqu'un qui puisse lui montrer le chemin. Hein, ouais, c'est là où il y a le rôle du professeur. Et malheureusement, de plus en plus, ces professeurs-là, on n'en a pas beaucoup.
D'accord. Claude, vous l'avez cité tout de suite, Monseigneur Barriga. Vous savez très bien que Monseigneur nous a quittés depuis le dimanche dernier. Et je sais quand même que c'est un grand ami à vous. Et comment vous avez accueilli aussi son décès?
Ah, vous devez le savoir, c'est un choc. Je vous dirais que je suis l'un de ses proches lecteurs, si on est un grand lecteur. Même il a un de ses livres avec moi. On a déjà fait à deux la première lecture. Je devais le rencontrer. On devait faire la deuxième lecture et il est parti. Voilà. Donc, C'est vrai.
Mais est-ce qu'on devait s'attendre quand même à ce que ce livre sorte à titre posthume?
Oui, je crois qu'on doit tout faire pour le faire sortir à titre posthume.
D'accord. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous dans cette chronique littéraire. Merci d'être passé. Nous sommes rejoints par d'autres confrères journalistes. Il y a Jean-Baptiste Attisso. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu.
Ali Saman, bonjour. Ali Le Grand, bien sûr.
Merci Pascal. Bonjour chers confrères en studio. Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Canal FM.
Sam Dobo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la nouvelle génération.
Vous avez soif, puisque aujourd'hui je vous vois particulièrement avec du jus.
Oui, par le passé, vous savez, ça, il faut quand même qu'on lui rende hommage. Quand il y a émission, il nous déposait des bouteilles d'eau. Mais depuis que tu as pris service, on est toujours assoiffé.
Ah bon? D'accord. Ce qui est sûr, je ferai de mon mieux. Pourquoi vous ne soyez plus assoiffé?
Je pense que la direction est
Eric, bonjour. Je ne sais pas si tu es aussi assoiffé.
Évidemment, quand on bavarde, il faut quand même prendre quelques gorgées d'eau. C'est très important. Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour, chers confrères.
Eric, je reste avec vous. C'est vrai que déjà, nous avons appris cette information depuis le dimanche dernier. Je veux bien parler alors du décès de Monseigneur Bariga Bénissan. Comment vous avez accueilli l'information?
Alors, Monseigneur Bariga, je pense que c'est l'un des rares Togolais qui a fait l'unanimité de son vivant. Et je pense que derrière lui, il fera toujours cette unanimité-là. Je voudrais dire que c'est quelqu'un qui est accepté par tout le monde. Que vous soyez de tout bord politique, que vous soyez de n'importe quelle obédience religieuse, que vous soyez pauvre ou riche, je pense que Monseigneur Bariga, comme lui-même il a l'habitude de dire, il a fait ce qu'il doit faire. Et je pense que c'est un grand homme que nous venons de perdre. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Et quand j'ai eu l'information, je suis resté cloué sur ma chaise pendant au moins une trentaine de minutes.
Vous avez été marqué.
À repenser à ce monsieur qui, au lendemain de sa prise de fonction à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation,
CVJR,
se demandait s'il pouvait réussir sa mission. Mais nous voulons lui dire qu'il a réussi sa mission. J'ai eu beaucoup de pensées à celle avec qui il a travaillé à la suite ce travail. Au niveau de la commission, je pense à Madame Awanana qui n'a jamais voulu le lâcher car il était devenu presque son conseiller spécial. Du moment où c'est lui qui a tout fait au niveau de la CVJR pour qu'on installe le H-Crown, Madame Awanana a pris tout le temps de se référer toujours à Monseigneur Bariga pour continuer l'œuvre qu'il a lancée. Malheureusement, aujourd'hui, nous perdons ce monsieur. J'imagine comment tout le personnel du H-Crown va se trouver.
D'accord. Bon, c'est vrai que nous avons perdu un homme pluridisciplinaire. Il est dramaturge, il est religieux, il est aussi chanteur ou artiste. C'est un grand talent que nous venons de perdre.
Alors, un grand talent d'abord.
Sans oublier qu'il est diplomate aussi.
Bien entendu. Vous savez, maître, comment on l'appelle, Monseigneur Nicodème Yves Anani Bariga.
Oui.
Il a été ordonné évêque, je crois, en 87, et il est très connu du monde catholique, mais il a été révélé aux Togolais après avoir dirigé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. À la création de cette commission, beaucoup ne vendaient pas assez cher la peau de cette commission. Les gens, connaissant un peu l'histoire du Togo, se disaient que les travaux qu'il avait entamés n'allaient pas aboutir. Vous vous souvenez même de ce communiqué que les corps habillés étaient passés lire lors d'une session plénière de la CVJR et qui devrait remettre en cause tout le travail qui était en train d'être abattu. Donc, Monseigneur Barriga, il a pris de la hauteur, il a gardé son calme olympien, il a pris les contacts avec les plus hautes autorités et finalement le travail a abouti. Donc, pour dire que c'est au travers de cette commission que beaucoup de Togolais l'ont connu. Il a un tempérament beaucoup plus posé, il a toujours les mots justes pour concilier les parties adverses ou les acteurs qui se regardent en chien de faïence et ça a permis qu'au final on puisse avoir un résultat tangible de cette commission vérité, justice et réconciliation. Vous savez, il y a eu des années, je crois déjà après les années 90, où quand vous êtes d'un certain parti politique, il y a des quartiers qui ne vous sont pas accessibles. C'est-à-dire, quand vous êtes du RPT à l'époque, vous ne pouvez pas aller facilement à Ebe avec un t-shirt du RPT. Pareil pour Adewi. Quand vous avez un t-shirt UFC, vous ne pouvez pas venir à Adewi. Mais c'est après ce travail-là que les Togolais ont commencé par s'accepter. Et aujourd'hui, au cours des élections, vous allez voir des caravanes, des partis, des différentes parties, des différentes formations politiques qui se croisent et que, au final, c'est beaucoup plus de fêtes. Aujourd'hui, Monseigneur Barriga, c'est un homme multitâche, un homme multidimensionnel que le Togo perd. Et Eric fait bien de rappeler qu'il a toujours dit que chacun doit faire sa part pour la construction nationale. Et pour revenir sur ce dicton qu'il avait, qu'il utilisait très souvent, il est parti de l'histoire du colibri. Le colibri, c'est ce tout petit oiseau qui est dans la forêt et que après le déclenchement d'un feu de brousse, le colibri qui court dans tous les sens pour puiser de l'eau avec son petit museau pour venir éteindre le grand feu de brousse. Et donc, quand on lui a demandé « qu'est-ce que toi tu peux bien faire avec ton petit museau pour éteindre le feu ?» il dit « lui fait sa part ». Donc, c'est comme ça que c'est parti et chacun dans son coin doit faire sa part pour la construction de l'édifice national.
Justement, chacun doit faire sa part. Et Monseigneur Nicodème Barriga Bénissant a fait sa part. Justin, oui, pour ce qui concerne alors sa mission au niveau même d'ailleurs de la CVJR, Eric le disait tout de suite qu'il a réussi cette mission. Mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que les Togolais ont tiré le meilleur de ce grand homme?
Oui, vous avez posé une très belle question parce que dans de pareilles circonstances, on semble exposer le côté positif de la personne, du défunt, comme se le recommande également la tradition africaine. Mais la question ou l'autre question qui est sur le tapis aujourd'hui est celle de savoir si véritablement Monseigneur Barriga est aimé par tout le monde. À mon sens, je ne le crois pas, puisque votre question vient confirmer. Parce que quand vous aimez quelqu'un et vous lui avez donné une mission, et contre vents et marées, la personne a réussi à assumer sa responsabilité. Je pense qu'au retour, ce qu'il a recommandé, il va falloir également le respecter. Donc ce livre blanc-là, qui comporte 69 recommandations, 68 recommandations, si j'ai bonne mémoire, qui a été remis aux autorités, notamment au chef de l'État, le 1-3 avril 2012, si j'ai bonne mémoire également. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tout ce que Monseigneur Barriga a eu à faire avec sa diplomatie pour amener véritablement qui est la concorde, la paix, pour que les fils du pays soient ensemble, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en glorifier. Donc, il s'est énormément passé beaucoup de choses et que dans les dernières périodes, certains même l'ont traité de ne pas véritablement jouer sa partition. Parce qu'il a utilisé trop de ruses en matière de diplomatie sans pourtant dire la vérité au pouvoir. Donc lorsqu'on est en face d'une dictature, il faut avoir le courage de dire certaines vérités. Peut-être que ça a manqué un peu à Monseigneur Barriga. C'est un grand homme qui a tellement de dimensions inestimables.
Concrètement, qu'est-ce que vous appelez par la vérité?
Non, contrairement à quand vous faites peut-être le rapprochement entre la façon dont Monseigneur Podro parle pour exprimer certaines de choses par rapport à la façon dont Monseigneur Barriga aussi voit les choses, la façon dont il pense peut-être amener les gouverneurs à attendre raison, je pense que c'est diamétralement opposé.
Est-ce que ce n'est pas ça aussi sa qualité de diplomate?
Oui, je n'en disconviens pas, puisqu'il a fait la diplomatie, il a sa manière de voir les choses. Vous vous rappelez, Sam venait de le dire, et un jour où les corps habillés, les officiers ont fait éruption dans la commission CVGE parce que c'est tout ce qui a été raconté, c'était du mensonge, ils ont le pas de vérité, alors qu'en réalité, ils devaient faire la demande. Mais à cette situation, il a voulu quand même manifester sa volonté de peut-être d'aller de l'avant ou enfin, de reculer, mais à un moment donné, il a compris qu'il a eu une mission et qu'il doit quand même assumer sa mission. Donc, d'où peut-être l'expression de pour que chacun puisse quand même faire sa part. Donc, Monseigneur Barriga, cet homme, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Et je me rappelle également, lorsqu'il était question de venir nous arrêter au niveau de la radio Légende, c'est lui qui a intervenu, je me rappelle encore. Donc, j'ai eu à discuter et véritablement avec cet homme. Et sa manière, sa façon de voir les choses, et il faut être tellement élevé pour le comprendre. Donc, le Togo vient de perdre un grand homme. Cet homme-là, je ne sais pas si, quand on fouille encore aujourd'hui, on peut encore en trouver. Donc, que la tête lui soit légère, vraiment.
D'accord. Jean-Baptiste, oui, la question, je vous pose aussi la question. Est-ce que les Togolais, surtout quand on parle de la classe politique, parce que nous savons le rôle que Monseigneur a joué dans cette question de réconciliation aujourd'hui, est-ce que la classe politique togolaise a su tirer vraiment le meilleur de ce grand homme?
Bon, c'est une question un peu délicate parce que peut-être la question mériterait d'être posée aux acteurs politiques pour que les bonnes réponses puissent être données. Mais en tant qu'observateur, je me dirais que certains peuvent dire, selon leur position, là où il se trouve, que Monseigneur Barriga a joué sa partition pour que nous connaissions un déclic au niveau de notre processus démocratique. Mais bon, c'est un peu mitigé parce que moi, je me dis, avec la crise que notre pays connaissait au moment où la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a été mise en place en 2009. C'était pour une durée de 6 mois, mais cela a été prolongé jusqu'à 3 ans. Pratiquement, c'est en 2012 que le travail a pu aboutir parce qu'il y a eu beaucoup de crocs en chambre que Monseigneur et son équipe et sa commission ont juste monté pour pouvoir mener à bien leur mission. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que au niveau des processus électoraux, il n'y a plus tellement d'embûches, il n'y a plus de débordements qu'on observe dans le temps quand il y a des élections dans notre pays. Peut-être parce que la commission là qu'il avait dirigée a eu à travailler dans notre pays et a pu apaiser les tensions au niveau des acteurs politiques et aussi de la population. Mais si on analyse à fond, mon confrère Justin l'a souligné bien tantôt, concernant les recommandations, on ne sent pas réellement une volonté du pouvoir à mettre en œuvre les recommandations issues des travaux de la CVJR, parce que il y a plein de recommandations qui sont aujourd'hui restées lettres mortes parce que les gens ont le souci de s'éterniser au pouvoir, et donc ça fait que les recommandations, quand on les jauge aujourd'hui, on les évalue, on voit que beaucoup de recommandations issues des travaux de la CVJR sont aujourd'hui restés dans les tiroirs, et notamment la plus célèbre de ces recommandations concernait justement la limitation de mandat présidentiel avec l'article 59 de la Constitution que cette commission avait bel et bien souligné. Mais aujourd'hui, il y a eu restauration de cet article, mais aujourd'hui, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui fait que cette recommandation maintenant est mise à l'eau parce que les gens ont l'idée de s'éterniser au pouvoir et font des pieds et des mains pour atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que nous déplorons de ce travail colossal que la commission CVJR avait abattu pendant trois ans.
Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste. Oui, merci beaucoup, puisque vous avez été un peu long. Et oui, Ali Le Grand, est-ce que finalement, aujourd'hui, les Togolais sont réconciliés?
En tout cas, Pascal, d'abord, je dirais que la terre soit légère vraiment, Monseigneur Bariga. Cet homme, comme les uns les autres l'ont soulevé depuis les premières minutes que cette nouvelle dévastatrice a été donnée, fait en tout cas plus ou moins l'unanimité des Togolais, l'une des rares personnes, hein, très rare, qui quand même, partout où tu passes, beaucoup aiment l'écouter, beaucoup aiment que ce soit ses chansons, que ce soit ses recommandations, même si vous n'êtes pas catholique. L'homélie, en tout cas la prêche de cet homme de Dieu, ce prélat, il a quand même marqué plus d'un, en tout cas moi particulièrement et ma famille, nous remercions le bon Dieu pour ce grand homme qui malheureusement nous a quittés si jeunes, parce que très souvent des personnalités de ce genre-là, généralement ils partent un peu à l'âge de 90 ans au-delà, entre 90 et 100 et plus. Mais malheureusement, il est parti plus tôt. Maintenant, pour tout ce qu'il a laissé en termes d'héritage, comme vous le dites, est-ce que les Togolais vraiment ont su s'en profiter? Moi, je dirais essentiellement oui. Essentiellement oui, à quelques exceptions près. Et vous savez, vous ne pouvez pas, en tout cas, conduire une mission que les brebis qui refusent naturellement de boire l'eau que vous offrez, vous ne pouvez rien faire. Et donc, le monsieur s'est mis vraiment à faire sa part, comme il a toujours dit, pour dire aujourd'hui que grâce au travail de la CVJR, à travers la commission, grâce à laquelle Monseigneur Bariga a joué le rôle de facilitateur pendant un bon moment, en se révélant togolais de par son talent, malgré toutes les difficultés. Vous avez vu que l'armée, effectivement, avait fait irruption lors de ses audiences foraines. À un moment donné, pour dire que tout ce qui se racontait était faux, notamment contre certaines personnalités. Mais le monsieur a tenu. Et là, il faut avoir aussi ce tard, la diplomatie adéquate, nécessaire pour pouvoir tenir. Parce que c'est dans ce même pays, même la dame Awanana, qui aujourd'hui préside le HCRU, qui n'est que la suite de la CVJR en 1998, si je ne me trompe pas, était obligée de quitter le pays. Parce que les militaires avaient décidé de proclamer les résultats. Donc, pour dire que le monsieur, quand même, il a une tenue, un tonus, il sait vraiment, en tout cas, avoir les uns les autres autour de soi pour pouvoir quand même arriver à la fin, en tout cas, aboutir à ce à quoi il était appelé. Et donc, il a fait sa part. Grâce à ce travail aujourd'hui, je peux vous dire que le HCRUM, comme vous le savez, dans plusieurs communautés, hein, puisque c'est public, plusieurs missions, que ce soit Lomé à l'intérieur du pays, ils ont rencontré les populations. C'est vrai que ça ne va pas ramener les personnes qui étaient décédées depuis pendant longtemps, en 2005. Mais dans tous les cas, ça a mené une certaine cohésion dans les localités. Il y a même des biens sociaux communautaires qui ont été voulus par les populations, qui ont demandé, en tout cas, à titre symbolique, qu'on puisse installer tel hôpital, et telle structure sanitaire ou telle école à tel endroit.
D'accord.
Donc, je pense que c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas fini. Ils sont toujours en train pour dire quelque part que autant rester du côté positif de l'homme qui est tellement dense que de relever encore les insuffisances.
Tout à fait. Alors, Ali, je reste toujours avec toi pour parler d'un autre sujet, un sujet que tu as abordé ce matin à la une alors de ton journal, l'audience. Tu écris à la une alors du journal, Bisby, au sein du net, bras de fer entre Dieri Thamah et le bureau intérimaire. C'est vrai, on sait qu'entre-temps, Dieri Thamah, l'ancien président, en quelque sorte, alors du net, avait annoncé sa démission sur le plan politique. Il a démissionné également lors de son parti. Il a annoncé même d'ailleurs son retrait. Mais finalement, il semble quand même que aujourd'hui, M. Dieri Thamah tente alors de revenir. C'est ça.
Ah oui, je pense qu'il y a un courrier, il y a des courriers qui font le tour des réseaux sociaux au jour le jour, et ce n'est pas faux. Dieri Thamah qui n'est plus à présenter. La seule chose que je puisse dire pour commencer, c'est que ce monsieur, au lendemain des élections législatives et régionales que le Togo a connues en avril dernier, juste à quelques jours de la proclamation des résultats définitifs, il nous disait en ces termes, le gourmet est profond. Comme quoi la déception était énorme. Et il renchérissait en disant que il a voulu faire la politique autrement, mais il a échoué. Et qu'il faudrait qu'il quitte tôt avant que la scène politique, avant que les choses ne le quittent lui-même. Et donc, il invitait par la même occasion le bureau à se réunir rapidement pour du moins désigner un des vice-présidents qui puisse, en tout cas, présider aux destinées du parti NET, Nouvel Engagement Togolais. Et c'est ce qui a été fait. Au passage, il faut reconnaître que Jules Amim, je crois, il doit être le troisième vice-président du parti. Il se fait que depuis juillet, courant juillet, il y a eu un courrier et le président intérimaire n'a été informé qu'à travers justement les réseaux sociaux. Le 3 août dernier, le monsieur reçoit un courrier du secrétaire général Amegavi, qui était à l'Assemblée nationale, au temps de Jerry Tama, effectivement, le secrétaire général du parti NET, qui l'informa qu'il a convoqué une réunion sur ce mardi même, le 6 août. Et c'est tout ce dernier courrier-là qui a fait dégénérer la situation. Et Jules Amim, le président intérimaire, ne compte pas se laisser faire. Parce que pour lui, il tient sa position conformément au texte fondateur du parti, et notamment le règlement intérieur, et dit que si Jerry Tama devrait revenir, souhaite revenir à la tête du parti, que cela puisse être fait dans les règles de l'art. Parce qu'il y aurait une pétition, justement, signé par certains membres du bureau directeur pour faire venir Jerry Tama, alors que quand il avait démissionné et il avait annoncé qu'il quittait la scène politique, il a démissionné de la tête du parti et demandant à ce que le bureau intérimaire puisse se préparer, revoir les tests de sorte que un prochain congrès puisse être organisé en décembre 2024. Voilà, nous sommes en août, en tout cas en juillet, que les velléités de retour sont arrivées. En tout cas, de toutes les façons, l'eau est dans le gaz au sein de ce parti et il faut, je crois que les lendemains risquent d'être durs et sinon ce parti risque de se retrouver devant la justice comme l'autre parti, je ne sais pas, Obu, non ? Obu qui a devenu un PDD. Dans le temps, Obu avec paix à son âme, feu à Guillaume Kodjo et Gaston Vidada, je ne me trompe pas, sont retrouvés au tribunal dans une situation similaire.
D'accord.
Donc, c'est ce qu'on risque de voir.
Eric, est-ce que vous êtes étonné ou vous êtes surpris par rapport même d'ailleurs à ce retour de Jerry Tama qui nous avait annoncé sa démission sur la scène politique?
Mais Pascal, si tu te rappelles très bien, je vous l'avais déjà dit. Je vous ai dit que Jerry Tama ne peut pas quitter la scène
effectivement,
politique.
Effectivement, je me souviens.
Voilà. Et donc, je crois que c'est dans la logique des choses. Maintenant, je pense que Jerry Tama, il est assez intelligent pour faire les choses autrement que ce que nous avons toujours connu dans notre pays, pour se conformer à lui-même ces règles qu'il avait établies au sein de son parti politique. Je dis toujours ici que nous avons un gros problème au sein de nos formations politiques. C'est que les présidents sont là à vie. Et parfois même ils deviennent des gourous pour leur propre formation politique. Ce qui fait que la jeunesse n'arrive pas à émerger au sein de ces formations politiques. Raison pour laquelle Jerry Tama, comprenant mieux la chose politique que nous, doit se conformer quand même aux règles de l'art. Pour ne pas donner matière à condamnation déjà aux populations qui devraient le suivre. Oui, j'ai décidé de me retirer de la scène politique il y a combien de mois, je ne sais pas. Mais
environ 2 mois.
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de ma formation politique qui ne permettent pas quand même que le parti puisse éclore. Alors j'ai décidé de faire un retour tout simplement, mais en respectant ses propres règles qu'il avait établies. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ça ne m'a pas étonné du tout. C'était la réponse à votre...
D'accord. Merci beaucoup, Eric. Oui, Sam, est-ce que c'est aussi ça la politique? C'est-à-dire, on annonce quelque chose hein, devant tout le monde entier et après avoir écouté cela, on fait des tractations hein, pour revenir ou pour ravaler en quelque sorte ce que ça salive.
Ben, directement, moi, je discutais avec un ami il y a deux jours qui me disait que la décision de quitter la scène politique de Djeri Tama l'avait laissé un peu dans le doute dubitatif parce que quelqu'un qui est habitué à boire le lait et un matin il décide d'aller élever les lapins. Alors, on sait que c'est les vaches qui donnent le lait. Les lapins, il va trouver le lait où? Donc lui disait, c'était une histoire pour dire que tôt ou tard, il va chercher à revenir à la tête du parti. Parce que en quittant la scène politique, il a dit il va faire quoi? Il va se consacrer à ses entreprises.
Ses premiers amours.
Voilà, ses premiers amours. Combien sont ces entreprises qui marchaient avant pour qu'il se lance dans la politique? Si on est un homme d'affaires averti ou aguerri, on a des entreprises qui fonctionnent à merveille, on peut venir à la politique, mais peut-être apporter sa pierre pour la construction. Et on peut même travailler pour que d'autres de la formation politique émergent. Et on se consacre à ces entreprises. Ça n'a pas été le cas. Et moi, je suis... C'est dommage quand même que le parti, le petit parti, le net, parce que quand je dis parti, petit parti, je le compare à d'autres formations politiques. C'est-à-dire que le parti, là, n'a pas les épaules solides pour supporter ce genre de combat ou de challenge. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a aussi l'histoire d'un autre parti politique qu'on peut encore... rappeler ici, c'est l'histoire de Maître Agbouibo avec le cas, où en 2016 ou 2017, je ne sais plus, où Maître Apevon était encore président de la formation politique, Maître Yahvi Agbouibo a voulu reprendre les rênes du cas. Et finalement, il a repris les rênes. Mais cela a occasionné le départ de beaucoup de cadres qui sont allés créer les FDR. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce coup-là, c'est ce vilain coup que Agbouibo a donné à ce cas qui a contribué à la chute drastique du CAR. Aujourd'hui, les députés, le CAR n'en a plus. Quand on dit meeting, le CAR appelle les gens, les personnes sortent. Et les FDR qui sont issus du CAR ont ravi la vedette au CAR. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe au net, il ne faut pas être surpris que d'autres militants quittent carrément le net pour soit aller créer une autre formation politique ou aller intégrer d'autres partis politiques. Souvenez-vous déjà qu'il y avait un certain Moïse Nofam à la veille de... au moment où il fallait voter pour la nouvelle constitution, où Djeri avait annoncé sur les réseaux que les députés du net n'allaient pas voter pour. Et finalement, on a constaté que même le mot d'ordre qu'il a donné, même ses propres députés n'ont pas respecté. Et donc ça a suscité déjà le départ de Moïse Nofam, que beaucoup connaissent, qui est un cadre du parti. Même pendant les élections législatives, il y a même un militant tête de liste à Yoto du net, qui allait battre campagne pour une autre formation politique. Donc ça veut dire que le parti même avait déjà des problèmes. Aujourd'hui, ce qui arrive, je pense qu'il doit se ressaisir et tirer les leçons de ce qui est arrivé au CAR pour que ça n'arrive pas vraiment à l'éclatement.
D'accord. Justin, comment vous analysez cette situation honnête?
Pascal, sincèrement, vous nous faites parler d'un petit parti qui a fait en réalité, je ne voudrais pas en parler.
Ah bon?
Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de sérieux dans le pays que... de parler du net, un parti centriste qui se résume en la personne de Djeri Tama. Comme Sam avait le dit tout à l'heure, quelqu'un qui a appris à boire de l'air ne peut pas se permettre d'aller élever du porc. Donc, tout ce qui se passe là, moi je dis que c'est
d'amuser. On boit aussi le lait du porc.
Ah, ça, moi je ne sais pas trop.
On fait fromage avec.
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, sincèrement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du sérieux dans le pays. Et on doit s'attendre que de parler du net avec les histoires de pétitions, Djeri Tama doit revenir, ne pas revenir. Qu'est-ce que Djeri Tama savait faire avant, et que, avant de rentrer dans la politique? Et les enjeux, les partitions qu'il a eu à jouer dans la politique togolaise, tout le monde le sait. Donc nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, donc on sait, on connaît beaucoup de choses dans ce pays, donc je ne voudrais pas en parler de trop.
Et Jean-Baptiste, est-ce que déjà avec ce problème alors au net, ça ne pose même pas aussi la question de l'organisation au sein de nos partis politiques?
Oui, absolument. Je crois que il y a un problème sérieux au sein des formations politiques togolaises. dans leur globalité. D'abord en commençant par le parti au pouvoir, parce que aujourd'hui c'est une comment l'appelle-t-on, une façade que chaque parti politique est en train de montrer au peuple togolais, que peut-être le parti au pouvoir est bien structuré, bien organisé, et que ce sont les partis de l'opposition qui ont des difficultés, qui sont exhibés à la face publique. Mais au fin fond, quand vous analysez, je crois que toutes les formations politiques au Togo ont de sérieux problèmes. Parce que rien qu'à voir, si vous participez aux élections, vous voyez comment les élections sont organisées dans nos pays, dans notre pays du moins, notamment, comment l'appelle-t-on, les agents électoraux qui sont déployés, c'est-à-dire ceux qui restent dans les bureaux de vote, comment ils remplissent les procès-verbaux, comment est-ce que... Et vous analysez les procès-verbaux, comment cela est rempli, les propos que les uns et les autres tiennent dans les bureaux de vote, vous voyez que vraiment il y a un manque réel de formation au niveau des militants. Et en revenant même au premier responsable des partis politiques, il y a quelques années, il y a un acteur politique qui disait qu'il va falloir faire les états généraux au sein de l'opposition togolaise. Les états généraux vraiment sont une nécessité aujourd'hui où le pays est à la croisée des chemins. Il faut vraiment faire les états généraux des partis politiques de l'opposition.
Lesquels?
Vous savez, je crois que je ne vais pas citer, bon, peut-être les partis qui au moins participent aux jeux politiques ces dernières années, quoi, deux dernières élections, les locales de 2019 et puis la présidentielle de 2020, et puis celle que nous venons de boucler en avril dernier. Ces trois élections, je crois que les partis qui ont quand même pris part à ces élections peuvent se regrouper et vraiment faire les états généraux pour savoir ce que là où ils vont. Parce que quand vous analysez les crises à répétition qui secouent ces partis politiques, vous voyez que ça, il y a un certain nombre de manquements, notamment la notion de la chose politique même à revoir. Qu'est-ce que les acteurs là que nous avons, est-ce qu'ils comprennent bien la notion politique? Leur vision pour le pays, quelle est leur vision pour le pays? Et dans chaque formation politique, comment les structures, les tests des partis, est-ce que les gens maîtrisent réellement les tests? Parce que quand on analyse les crises qui secouent ces partis politiques, je crois que les gens méconnaissent profondément les tests de ces différentes formations politiques. C'est ça qui fait que on assiste à des crises sur crises. Mmh. Sinon, ce que nous voyons aussi dans notre pays, ça ne devrait pas l'être.
Oui, mais voilà, Ali Le Grand, c'est vrai qu'on constate ces crises en quelque sorte récurrentes ces derniers temps dans des partis politiques, surtout de l'opposition, bien sûr. On se souvient tout récemment même de MPDD qui a annoncé sa démission au niveau alors de la DMK, et aussi Paul Misagbeto qui a annoncé aussi sa démission de MPDD. Finalement, les partis politiques, surtout de l'opposition aujourd'hui, ont besoin d'une autre organisation, d'où peut-être alors les assises.
Non, moi je ne parlais pas d'assises. Hein. Moi je parlais de questions de responsabilité, de conscience personnelle. Mmh. Il faut que si vous êtes responsable d'un parti politique, d'une structure, d'une association, d'une société, bon, quand même, il y a des responsabilités qui revient à votre collaborateur. Naturellement, c'est à votre collaborateur de décider. Vous êtes peut-être le premier responsable, vous aurez un œil. Maintenant, quand les tests disent qu'au bout de 5 ans, il va falloir passer la main, ou vous êtes rééligible pour une fois, bon, essayez. Si vous arrivez à réussir pour deux mandats à la tête du parti, bon, il faut libérer quand même le plancher pour permettre à l'autre aussi de venir. C'est là où je parle de conscience. Mais si vous n'avez pas cette conscience, naturellement, ça ne viendra pas. Deuxièmement, parce que vous n'avez pas cette conscience, vous risquez d'aller en guerre, jusqu'à même chercher la mort à l'autre qui est là. Parce que ce n'est pas occulté. Hein. On connaît des partis. Tout à l'heure, je parlais de l'autre là, le parti Obu, le MPDD aujourd'hui qu'on connaît. C'était Obu, initialement, je me rappelle de cette affaire. Mm. Quand on se bat sur les tests, moi je dis... Le parti de Djeritama risque de se retrouver devant le tribunal. Parce que celui qui est là, qui joue l'intérim aujourd'hui,
avec sa conscience, il estime que c'est les tests ou rien. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Le Jeritama, qui avait même annoncé au travers de ses adresses sur les plateformes, les réseaux sociaux, et qui a permis à beaucoup, oui, parce qu'il y a eu l'opinion, il y a quand moi je vois les commentaires, il y a beaucoup quand même qui avaient aimé sa sincérité dans un premier temps. Fut-elle flatteuse? Voilà que la sincérité, ce que beaucoup croyaient être vraiment une décision un peu mûrie, c'était seulement sur le coup de l'émotion. Pour dire, quand vous n'avez pas la conscience, ça ne passera pas. Donc, si l'intérimaire, le bureau intérimaire reste dans cette posture-là, ça voudra dire qu'ils vont se retrouver devant la justice, comme le parti au but d'Agbeyome s'est retrouvé devant la justice, et c'est ce qui a amené d'ailleurs, fut Agbeyome et ses colistiers à changer de nom.
D'accord. Eric, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui ne marche pas, surtout avec ces partis politiques, ou quand, déjà, à un moment donné, on voit ces crises-là au sein de ces partis politiques, et finalement, on voit même des partis politiques, des mêmes personnes, hein, du même parti politique, alors qu'ils se retrouvent au tribunal.
Oui. Dans un pays normal et où la démocratie est installée, quand vous avez des différends, c'est devant les tribunaux que vous vous retrouvez. Ça, c'est tout à fait logique. Sauf que la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir si réellement les gens viennent à la politique par conviction, par passion ou par autre chose.
Par
intérêt. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Les gens créent les partis politiques pour quel objectif? Tout ce que les confrères ont listé là, c'est des choses que nous avons tous vécues. Et dites-moi concrètement, quel est l'unique parti politique où, le gourou a fait place à la jeune classe montante? Ça n'existe pas. Ça veut dire que l'on crée son parti politique pour le diriger à vie. Et on demande à quelqu'un qui a déjà le pouvoir, puisque on dit que en créant un parti politique, c'est d'arriver au sommet de l'État. Et maintenant, quelqu'un qui est au sommet de l'État, de quelle manière il va laisser ouvrir
le jeu démocratique ne demande pas qu'il laisse aussi cela.
Mais c'est juste pour faire un parallèle par rapport à tout ce qui se passe. Je dis tout simplement, si vous n'avez pas de conviction, si vous n'avez pas un idéal, mais ne venez pas en politique, tout simplement, parce que faire de la politique, c'est se donner aux autres, c'est-à-dire lutter pour les autres. Nous sommes des hommes de médias. Nous venons ici pour analyser des faits. Notre rôle s'arrête à cela. Nous donnons l'information. Mais ça revient aux populations de réaliser ce que nous disons pour prendre le bon côté. Quant aux politiciens, ils sont là pour se battre pour nous, pour que le pays puisse se développer, pour que les citoyens puissent avoir ce bien-être-là que nous tous nous recherchons sur Terre. Et donc, il ne faudrait pas venir pour ses propres intérêts. On a tout comme l'impression que c'est ce qui se passe au sein de nos formations politiques.
D'accord. Alors, je sais que nous avons beaucoup de choses à dire, Sam. Je sais que nous avons beaucoup de choses à dire alors sur le sujet. Mais nous allons aussi marquer la pause, puisqu'il y a nos amis auditeurs et auditrices qui s'impatientent à rentrer en ligne pour aussi participer à ce débat avec nous. Et donc, nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 63 75, tout en les informant que déjà, quand ils veulent nous appeler, il est très important qu'ils disposent alors d'un poste récepteur à côté pour avoir le retour. C'est très important. Alors, Michel, nous allons à la pause. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mardi et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, chez vous?
Ça va aussi, votre nom c'est?
Apollinaire depuis Nukafu,
allez-y Apollinaire.
Ok, moi à mon humble avis, sur le débat du M. Jeritama là, Ça, c'est quelque chose qui est inutile. Parce que celui qui a bien mangé, il a rassasié, il a fait le vide, il dit qu'il a démissionné. Moi, vous avez pris 25 minutes pour parler sur le parti politique, mais pourtant, si vous faites, je ne vous critique pas. Hein. Mais pourtant, on a sanctionné notre radio Victoire FM. Vous n'avez pas débattu sur ça, mais vous avez pris le temps pour parler de M. Diri. Ça, c'est sûr que ce n'est pas inutile à mon humble avis. Quoi.
Ça, ça fait partie...
Il a mangé, il a rassasié.
Oui, mais.
Il a dit qu'il a démissionné.
Apollinaire.
Il dit qu'il va revenir encore.
Oui, Apollinaire.
Ça, ce n'est plus la peine de. Oui, oui, monsieur.
Ah, mais ça fait partie de l'actualité aussi. Et nous sommes là pour analyser l'actualité.
Oui, moi aussi, je sais. Même pour M. Kiritama, pour la nouvelle condition, là, lui, il peut partir. Donc, ce n'est plus la peine de parler pour lui. Merci, bonne
D'accord. Émission. Merci, Apollinaire, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est Abdel.
Abdel. Allez-y.
Oui, je ne peux pas m'exprimer sans dire encore un mot sur notre prélat, le feu Bariga, pour dire que c'est toujours un grand homme. Et c'est bon, il est parti en nous laissant un héritage, l'humilité et l'amour que nous devons pratiquer au quotidien. Maintenant, concernant Geritama, je pense qu'il me souvient très bien que c'est lui, Geritama, qui a conseillé la jeunesse togolaise de ne pas s'intéresser à la politique, de ne pas perdre de temps avec la politique. Donc, moi, j'estime que tout ce qu'on dit, la presse dit actuellement, c'est faux. Je ne crois pas que Geritama aura le courage de revenir sur la scène politique. Je ne crois pas. Sinon, ça sera pour lui...
Mais Abdel, vous serez surpris.
...politique.
Abdel ?
...enterré à tout jamais. Parce qu'il n'était pas obligé de conseiller la jeunesse togolaise en disant de ne pas s'intéresser à la politique. Il pouvait tout simplement se retirer de son parti politique sans rien dire, démissionner. Mais aller jusqu'à conseiller la jeunesse politique dans ce sens. Mais attends, c'est absurde. Et si lui-même, il revient, d'accord, la jeunesse togolaise l'attend, il n'a qu'à revenir. Et on va faire le débat.
D'accord, merci Abdel pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est M. Mauto. Oui, allez-y.
Salut le plateau.
Le plateau aussi, vous savez.
Permettez-moi de vous poser cette question-là. Depuis la semaine passée, ou bien, on a donné l'attention à votre confrère du FM. Et la radio aussi a eu, son émission aussi a eu une tension. Vous n'en parlez pas. Je voulais savoir, est-ce qu'on vous a interdit de parler de ce sujet?
Non, on nous a interdit alors de parler d'aucun sujet. Nous choisissons les sujets, les sujets débattus par la presse.
Pour M. Geritama, là, je pense qu'il est revenu encore pour boire encore du l'air. Hein. Merci, bonne émission.
D'accord, allez, bonne journée à toi. M. Mauto, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien. C'est Nestor depuis Agouet.
Tout à fait. Allez-y, Nestor.
Oui. La question, est-ce qu'il y a la réconciliation au Togo? Moi, je voudrais saluer le fait qu'aujourd'hui, un journaliste comme M. Eric et M. Justin, malgré leur divergence de point de vue politique, débattent ensemble sur un plateau. Comme le dit quelqu'un, c'est qu'on a des points divergents pour arriver peut-être au même objectif. Je suis en phase avec M. Justin. Il y a des sujets importants sur le Togo que de parler de certains sujets. Avec tout mon respect au Club de la Presse, depuis la fermeture d'un certain média, le Club de la Presse dribble certains sujets. Merci Canal FM.
Nous ne dribblons aucun sujet, M. Nestor. Nous sommes là toujours pour parler alors des sujets débattus par la presse, hein, c'est-à-dire des sujets qui sont de l'actualité, bien sûr. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
C'est Nyamavo, monsieur.
Allez-y.
J'ai une affaire à vous. Hein.
Merci beaucoup.
Oui. Et surtout aussi que notre œuvre là repose en paix. Et beaucoup ont soulevé l'inquiétude. Est-ce que la CVJR a donné un résultat? Certains vont sortir un jour pour nous dire que c'est caduque, comme ils l'ont fait avec l'accord politique global. Celui qui a recommandé l'annulation du mandat. Il est mort dans la 5e République. Est-ce que c'est la fière? Mais je demande à tous les Togolais de ne pas pleurer cet homme, parce que aussitôt mort, il est ressuscité. Parce qu'on le fait au bout des lèvres de tous les Togolais, du monde entier. C'est ce que José a fait et son nom est gardé. Le Mandela, tout ça là, les bons hommes, les Thomas Sankara, ils sont éternellement dans nos cœurs. Mais quand tu fais du mal, on t'enterre, on t'atteint définitivement. C'est ce qu'on recommande à tous les Togolais. Mais il a laissé quoi? Les leaders politiques, sa majesté. Vous allez regarder les sadistes qui font du mal aux autres pour trouver du plaisir dedans. Et les majestistes qui se font eux-mêmes du mal pour en trouver plaisir. Donc, les Togolais sont conscients. Ils voudraient que l'œuvre du prélat aille très loin dans le cœur de tous les Togolais. Qui recommande la transparence, c'est tout, de tous les côtés. Donc, je salue tout le monde. Bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention.
Allô.
Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Très, très bien.
D'accord, votre nom, c'est...
C'est Mamadou Adranaoui.
Mamadou, depuis Adranaoui, allez-y.
Pour guérir Kama, on n'a pas dit la jeunesse de ne pas faire la politique. Là, de Togo, quand le pouvoir est toujours là, de ne pas, la jeunesse ne peut pas faire la politique. C'est comme ça qu'il a dit. Il n'a pas dit dans le monde entier, la jeunesse ne doit pas faire la politique. C'est comme ça qu'il a dit. Il faut le comprendre comme ça. Si le régime là est là, la jeunesse ne faut pas, c'est-à-dire, s'aventurer dans la politique. Merci.
Merci beaucoup, Mamadou, pour votre intervention. 90-86-35-35.
Allô?
Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour.
Allô?
Oui, allô, bonjour. Non, il n'a pas de retour, Michel. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour,
oui, Richard, comment vous allez?
Je n'ai pas de retour.
Oui, mais Richard,
moi,
allez-y.
Je vous félicite sur le plateau. C'est mes condoléances à la famille chrétienne par rapport à notre Monseigneur. C'est le seul qui a su constituer les chrétiens et les musulmans. Le seul aussi qui ne fait plus dans le monde pour consolider cette famille de Dieu. Donc, par rapport à ce que Dieu dit, vous voyez, ça m'a l'air comme sur une radio que j'ai beaucoup estimé. Par la discipline, la manière dont vous présentez les émissions. Sincèrement, s'il y a un jour que je n'ai pas écouté la radio, j'ai mal. C'est la preuve que je prends mon téléphone. J'appelle direct. Je n'appelle pas sur WhatsApp. C'est mon unité. C'est ce travail que j'ai accepté de traiter. Sincèrement, continue mon travail. Merci.
Merci beaucoup, Richard. Ça fait toujours plaisir d'écouter ces témoignages de nos auditeurs. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, mon directeur. Bonjour, tout le plateau.
Allez-y.
Mes condoléances à Monseigneur Bariga, ensuite celle que nous avons oubliée aussi, puisqu'elle fait partie, Mademoiselle Kondjo, qui était du milieu aussi, à leur âme. Vous savez, la politique, les politiciens togolais, surtout la jeunesse, quand quelqu'un meurt, il part avec son esprit. Est-ce que du temps des anciens, puis ce progrès, ils se sont traduits à la justice, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Mon directeur Vassal, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Il faut qu'on les entende tout le temps. Quel honneur ça leur donne, les politiciens? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Siviti. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Nous attendons le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Il est là. Allô? Bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Oui, votre nom c'est?
C'est Patrick.
Patrick?
Oui.
Allez-y.
Alors, tout d'abord, j'aimerais m'intéresser à notre ami de e-commerce là. Ça ne serait pas bon d'organiser des petites formations pour que la population s'imprègne de cet outil. Parce que, à l'avenir, quoi qu'on dise, avec l'évolution de la technologie, le e-commerce, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui domineront le monde entier, en fait. Donc, s'il y a des choses comme ça, j'aimerais quand même qu'on organise des petites formations pour que les gens puissent avoir une idée. Et quand ça se représente, s'il n'y a pas de difficultés, à vouloir participer à ce genre de trucs, quoi. Ça, c'est un. De deux, je crois que mon cher ami Eric l'a si frôlé. Vous savez, les gens prennent des partis politiques comme la fonction publique, comme le fonds entreprise, comme le business. Cela veut dire que quand vous êtes créateur d'un parti politique et que vous n'avez pas une mission pour toute la population, croire qu'en créant ce parti politique, en redevant ce parti, doit nourrir toute ma famille. Ce parti politique doit servir d'une entreprise pour que, en cas de besoin, je puisse puiser là-bas pour satisfaire mes besoins. On aura toujours deux. Donc, si quelqu'un n'a pas une conviction digne de ce nom pour cette population, je crois qu'on peut même aller jusqu'à 2025. Nous aurons le même problème. Merci à vous et bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte de l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Sam, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur aussi des sujets débattus ici au Club de la Presse, mais je voudrais quand même faire savoir à nos auditeurs que nous ne driblons aucun sujet, aucun, puisque nous invitons surtout les directeurs de publication des journaux pour discuter, analyser des sujets de l'actualité, des sujets quand même discutés par écrit, évoqués surtout dans leurs journaux. Ce sont ces sujets-là que nous évoquons et que nous débattons même d'ailleurs sur ces sujets. Nous analysons ces sujets. Alors Sam?
Oui, bon, j'ai écouté attentivement ce que les auditeurs ont dit. Le sujet sur lequel moi je devrais revenir, c'est par rapport à la sanction de Radio Victoire et de notre confrère Joachim Agbetim. Je crois que c'est une procédure normale de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est l'organe qui se charge de la régulation des médias. Et quand elle prononce une décision, je pense qu'il y a des voies de recours. Et donc, si nous dédions une émission spéciale à ce sujet, je pense que soit on peut peut-être aggraver la situation ou peut-être nous porter en faux par rapport à ce qui est reproché à la radio. Maintenant, s'il y a des voies de recours, si Radio Victoire pense que la décision de la HAC ne la convainc pas, elle peut saisir les instances. On se rappelle de l'affaire de Yves Gallet, je crois,
oui, oui.
Avec la HAC, il a saisi les tribunaux et on lui a donné raison. Donc moi, je pense que qu'on ne nous demande pas de faire le travail qui n'est pas le nôtre, au risque même d'aggraver une situation qui est déjà un peu compliquée.
Tout à fait.
Maintenant, par rapport au débat qu'on faisait avant l'ouverture de l'antenne, par rapport aux formations politiques, moi je disais hors micro que les partis politiques ne sont pas des entreprises personnelles que les gens créent. La charte des partis politiques même fait obligation à ceux qui veulent créer des partis de piocher un peu dans toutes les localités du pays, de sorte à ce qu'on ait un truc inclusif. Et donc, à ce titre, ceux qui sont tentés de créer des formations politiques doivent savoir sur quel élément miser pour que la formation politique soit comme une entité au sein de laquelle chacun met la main à la poche. Mais si vous créez une formation politique et que vous laissez le premier responsable faire face à toutes les charges liées à la formation politique, ne soyez pas surpris que le même responsable considère le parti politique comme une propriété privée et qu'il parte et qu'il revienne à tout moment comme bon lui semble. Donc c'est la précision que moi je voulais faire.
D'accord, merci beaucoup Sam. Oui, Justin ?
Non, moi je crois que excusez-moi, les auditeurs ont exprimé leur point de vue sur le sujet discuté. Seulement, je fais remarquer que Monseigneur Dovin Dan, ce qui nous a quittés récemment,
oui.
Monseigneur Casimir Andron Dosset aussi nous a quittés, Monseigneur Baudreau nous a quittés, et Monseigneur Barriga le dimanche dernier.
Oui.
Maintenant, à l'analyse, et lorsque vous interrogez aussi l'opinion, Monseigneur Baudreau et Monseigneur Barriga aujourd'hui, les deux là, représentent un monument vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'Église catholique et ces prélats-là qui sont au sommet. Parce qu'ils ont eu l'adhésion populaire au niveau de la masse. C'est l'observation que j'ai faite. Et puis, l'autre questionnement aujourd'hui, tout se passe comme si au sein de partis unis ou partis au pouvoir, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Ce qui se passe là, peut-être que nous, les journalistes, nous n'avons pas le courage de faire sortir, de publier ça sur les journaux dans notre pays. Parce que nous savons ce que c'est. D'accord ? Bon. Puisque tout à l'heure, les auditeurs font allusion à ce qui est arrivé à notre confrère Joachim Agbetine. Peut-être que ce sujet-là, on l'aborde moins. Pas trop. On risque peut-être de créer une situation...
Ou d'aggraver la situation. D'aggraver.
Bon, de créer une situation, je dis. Aggraver ou ne pas aggraver, mais de créer une situation peut-être que nous ne maîtrisons pas. Mais laisser croire que et c'est au niveau de l'opposition que tout cela se passe. Il faut aller chercher à comprendre quels sont ceux-là qui sont derrière. Parce que lorsque tout à l'heure, mon confrère parlait, faisait allusion de ce qui s'est passé en 2000, avec Obu, ou après ce procès-là...
Juste encore 30 ouais, secondes. Ouais,
où il y a eu interdiction de ne plus prononcer le nom de Obu au temps de Agbemé Kodjo qui est devenu avec, comment on a dit, Dada. Et par après, c'est avec l'UFC ou l'exclusion de Jésus-Christ Olympio, ça n'a pas été accepté, et puis c'est la création de l'ENC. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais faire remarquer est que le problème et le combat que mène le Togo aujourd'hui, ou les Togolais aujourd'hui, pour sortir de la dictature, ne se résume pas seulement au niveau de ces partis politiques-là. C'est les Togolais qui doivent prendre leur destin en main, et non les leaders des partis politiques qui doivent se mettre au devant de la scène.
D'accord, merci Justin. Oui, Jean-Baptiste, rapidement, 45 secondes.
Oui, je crois que les auditeurs ont exprimé leur opinion par rapport au sujet que nous avons débattu ici. Mais peut-être leur dire que nous n'avons pas du tout occulté l'ascension qu'a écopé notre confrère Joachim et la radio Victoire. Parce que, vous savez, et nous, peut-être ici aujourd'hui, on ne l'a pas évoqué, mais c'est qu'ailleurs, nous, on a quand même eu le courage de l'évoquer parce que aujourd'hui, on ne peut pas quand même empêcher à une radio d'ouvrir ses antennes à un Togolais qui se trouve à l'extérieur du pays, un opposant ou je ne sais n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas de Victoire FM. Si par exemple, c'est la radio RFI qui ouvre ses antennes à François Bocco ou bien la VOA ou bien la BBC, je ne pense pas que la radio.
On reviendra sur le sujet. Okay. Merci beaucoup. Suspendre. On reviendra sur le sujet parce qu'il est déjà. Nous sommes déjà talonnés par le temps.
Oui, Pascal, moi je dirais que les expressions des uns et des autres sont légitimes. C'est normal, hein, chacun a son opinion et que sur ce plateau ou ailleurs, on a une heure de temps de débat entre nous. Tout ne peut pas être évoqué. Oui. Moi, personnellement, j'aurais aimé, par exemple, qu'on évoque aussi un sujet, par exemple, phare, où dans le Grand Ogou, trois préfectures sont réunies depuis des années et qui fêtent leur fête. Oui. L'apothéose a eu lieu ce week-end.
Tout à fait.
Et c'était une grande réussite.
Ok, merci beaucoup.
Toutes mes félicitations.
Je vois combien de fois vous êtes intéressé par le sujet. Alors, mais merci. Eric, rapidement.
Oui. Non, je pense que c'est tout à fait logique que les auditeurs évoquent le sujet de Radio Victoire. Mais je pense que nous avons beaucoup de canaux pour nous intéresser à ce sujet. Quand le débat ou pas, ce n'est pas qu'on néglige ce qui se passe, puisque nous avons des organisations de presse qui défendent nos droits et c'est unanimement que nous prenons les décisions. Je crois que nous soutenons Radio Canalef et Radio Victoire et le confrère Joachim Agbetim.
Tout à fait.
Même si on n'en parle pas, on les soutient. On ne peut pas accepter que la presse soit muselée.
Tout à fait. Allez, merci beaucoup, chers confrères. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoutia a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.